franceinter.fr.
Bonsoir. 4 balles dans le dos, la mort hier sur un pont à Moscou de l'opposant Boris Nemtsov. Aujourd'hui, des milliers de Russes ont déposé des bouquets de fleurs, allumé des bougies sur le pont qui enjambe la Moscova. Demain, une marche devrait réunir des milliers de manifestants. Marche organisée à Moscou à la mémoire de cette figure majeure de la contestation anti-Poutine. Dans 3 semaines, nous serons à la veille du premier tour des élections départementales, crédité d'un fort potentiel de vote dans les sondages. Le Front National, réuni en convention cet après-midi à Paris, déclare espérer maîtriser ce scrutin pour influencer la politique dans les départements. Pour Marine Le Pen, dans cette campagne, l'adversaire numéro 1, c'est le Parti Socialiste, c'est Manuel Valls. Les exactions se multiplient dans le Sinaï. L'Égypte accuse le Hamas de faire cause commune avec le groupe État islamique. Le Caire décide de classer l'organisation palestinienne dans la catégorie des groupes terroristes. Un feuilleton qui aurait pu avoir sa place sur TF1, la fausse mort de Martin Bouygues. En début d'après-midi, beaucoup de rédactions y ont cru, mais très vite, le démenti est arrivé. Martin Bouygues, 62 ans, va très bien. Merci pour lui. En fait, c'était un quiproquo. Il s'agissait du décès d'un certain monsieur Martin, mais ce n'était pas l'industriel. Dans ce journal, nous irons découvrir les nouveautés technologiques présentées au Salon international de l'agriculture. Nous verrons que les robots intelligents ne vont pas tarder à arriver dans les champs. Rugby, tournoi des 6 nations, la France joue en ce moment même contre le Pays de Galles. Les Diables Rouges mènent la danse 6-3. Football, Marseille hier a été battu. Cet après-midi, c'est au tour de Lyon de chuter. Le leader battu à Lille 2-1 en cas de victoire demain du PSG à Monaco. Les Parisiens prendraient alors la tête du championnat. La circulation, un point route en ce samedi soir. La journée a été bien chargée dans la région Rhône-Alpes avec un gros chassé-croisé de vacanciers. Journée classée rouge et la couleur était la bonne, Marie Blondiot.
Oui, mais la bonne nouvelle, c'est cette circulation rétablie dans les deux centres en direction des Menuires et de Val-Thorens, départementale 117 ouverte donc depuis une heure, mais le bouchon est toujours là. 20 km entre Albertville et Moutier sur la Nationale 90, 13 km en amont entre Chambéry et Albertville, et vous êtes ralenti aussi sur la 430 au sud-ouest d'Albertville depuis Tournon. Bison Futé vous conseille toujours de vous arrêter pour passer la nuit à Albertville ou Chambéry. Et puis l'accès à Méribel et Courchevel est également difficile à cause des voitures garées le long de la route.
Merci Marie Blondiot. Le temps, demain la pluie va se généraliser, mais il fera plus doux. On commence avec le rugby, tournoi des 6 nations, France-Galles. On joue en deuxième période et pour le moment au Stade de France à Saint-Denis. Patrick Rivaz, les bleus sont plutôt crispés et les rouges sont plus réalistes. Résultat au tableau d'affichage, 6-3 en faveur du Pays de Galles.
Oui, effectivement, 6-3 en faveur du Pays de Galles alors que nous jouons depuis 7 minutes en temps et que Morgan Parra a remplacé dans le rôle de buteur Camille Lopez qui s'était montré particulièrement maladroit dans ses tentatives au but. Et bien malheureusement, Morgan Parra lui aussi a manqué une pénalité en début de deuxième mi-temps, ce qui fait que nous en restons à ce score de 6-3 en faveur des Gallois. Mais il y a une métamorphose, il y a un petit espoir, il y a une petite lueur d'espérance du côté français, puisque depuis le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, les Français se montrent autrement plus agressifs, autrement plus offensifs et autrement moins maladroits qu'ils ne l'avaient été en première mi-temps. Ils ont maintenant des ballons et les ballons qu'ils ont sont souvent bien exploités. Ils sont en train d'acculer les Gallois dans leurs 22 mètres et donc la France pourrait éventuellement, d'autant plus qu'elle va bénéficier d'une pénalité en face des poteaux, pourrait un peu remettre les pendules à l'heure face à cette équipe du Pays de Galles. Mais pour l'instant, nous en restons à 6-3. Camille Lopez va tenter la légalisation dans maintenant quelques secondes.
Merci Patrick Rivaz, vous gardez l'œil sur les pendules. On vous retrouvera à la fin de ce journal pour un nouveau point sur ce match face au Gallois. La mort de Boris Nemtsov, le principal opposant à Vladimir Poutine, a été tué hier après-midi de 4 balles dans le dos près du Kremlin. Nemtsov venait d'accorder une interview à une radio moscovite. Il était âgé de 55 ans, ancien vice-président du temps de Boris Yeltsin. Boris Nemtsov était un ardent démocrate qui ne ménageait pas ses critiques sur la gestion de l'économie russe et sur la politique menée par Vladimir Poutine en Ukraine. Il devait demain prendre la tête d'une grande manifestation organisée dans la capitale russe. Ce rassemblement va donc se transformer en une marche à sa mémoire. Marche d'ailleurs autorisée par le pouvoir. En attendant, et toute la journée, des milliers de moscovites se sont rendus sur les lieux de l'assassinat pour rendre hommage à Boris Nemtsov, Caroline Larson.
Oui, j'étais tout à l'heure sur ce pont où Boris Nemtsov a été abattu. J'y ai vu des gens déposer des bouquets de fleurs, se recueillir, pleurer pour certains, d'autres encore exhiber une pancarte portant l'inscription Zatchem, qui veut dire pourquoi Plusieurs milliers de personnes donc ont afflué de cette manière toute la journée, et pas seulement des adeptes de Boris Nemtsov, mais aussi des gens simplement tristes, en colère, venus demander des comptes au gouvernement, comme cette dame russe avec qui je discutais tout à l'heure, qui m'expliquait les larmes aux yeux que le Kremlin était bien évidemment derrière tout ça, ou plutôt le FSB, Service fédéral de sécurité en Russie. Mais pour désigner le FSB, elle disait KGB. KGB comme au temps de l'Union soviétique, visiblement pour elle et pour beaucoup d'autres. Rien n'a vraiment changé depuis, au moins en ce qui concerne la manière de fonctionner du gouvernement. Mais pour d'autres, comme un jeune homme prénommé Maxime, il est tout à fait absurde de penser que le Kremlin est derrière l'assassinat de cet opposant, car pour lui, comme pour la plupart des Russes, Vladimir Poutine est aujourd'hui devenu un véritable héros de la nation. Alors on verra demain ce qu'il en est avec cette marche prévue à Moscou en hommage à Boris Nemtsov. Mais en tout cas, vu la foule qui s'est déjà déplacée aujourd'hui, il devrait y avoir beaucoup de monde demain.
Merci Caroline Larson en direct de Moscou. Boris Nemtsov se savait menacé hier, peu avant de tomber sous les balles de ses meurtriers. Il était venu défendre ses idées au micro de la radio Écho de Moscou, une chaîne d'opposition au gouvernement. Et une fois de plus, il avait plaidé en faveur de l'Ukraine. L'assassinat de Boris Nemtsov, c'est une grosse perte, déclare Sergei Buntman, le rédacteur en chef de la radio L'Écho de Moscou.
C'est une grande perte dans ce spectre politique de la Russie, parce que il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques de ce niveau, de Boris Nemtsov, qui avait participé à toutes les réformes de Boris Yeltsin, mais qui a toujours incarné une sorte de force nouvelle, de ce dynamisme dont la Russie manque maintenant. Moi, je pense que c'est l'atmosphère qui a joué le rôle principal. Cette atmosphère nationaliste, agitée, xénophobe, cette intolérance extrême envers l'opposition et envers tous ceux qui ne sont pas d'accord. Il était suivi et pas pour la première fois. C'est justement le message, ce sera le sort de tous les opposants, peut-être. La réaction de demain est importante. Combien de gens et quel sera le moral des gens qui viendront? Ces manifestations sont toujours suivies par des membres des organisations pro-Poutine qui essaient d'offenser, d'insulter et de provoquer les participants aux manifestations. Et puis, ça dépend aussi du comportement des forces de l'ordre. La journée de demain sera très difficile et très inquiétante.
Sergei Buntman, rédacteur en chef de la radio L'Écho de Moscou, interrogé par Mathilde Dehémy.
Intersoir. Philippe Habitboul.
1500 candidats et sympathisants du Front National réunis cet après-midi en convention à Paris pour préparer les élections départementales à un peu plus de 3 semaines du premier tour. Marine Le Pen, comme hier Manuel Valls devant les militants socialistes en Ille-et-Vilaine, a désigné son pire ennemi. Et pour une fois, Marine Le Pen et Manuel Valls ont la même analyse. Chacun pense que son pire ennemi, eh bien, c'est l'autre.
Le balancier électoral n'a que trop duré. De gauche à droite, de droite à gauche, comme dans une forme d'hypnose. On a voulu endormir les Français. Vos paupières sont lourdes. Il est temps de rompre ce rythme sans fin de l'alternance entre la droite et la gauche. Le Premier ministre s'est rendu 2 fois dans le Doubs pour une simple élection partielle. Pour ses départementales de mars, il a prévu pas moins de 10 déplacements pour aller déverser son venin contre les Français qui votent mal. Son objectif, c'est de saturer les médias. Que chaque soir, Manuel Valls puisse faire le beau dans un meeting devant les Français. Monsieur Valls ne vient-il pas de déclarer que son seul adversaire était le Front National? Eh bien, pour une fois que nous sommes d'accord.
Propos recueillis par Nasser Madji. Le Hamas, classé organisation terroriste par l'Égypte, la justice égyptienne accuse le mouvement palestinien de soutenir l'opposition islamiste, celle-là même qui, dans le Sinaï, s'est ralliée au groupe État islamique et qui multiplie les attentats contre le pouvoir égyptien dans la région. Les relations entre les dirigeants de la bande de Gaza et l'État égyptien sont au plus bas depuis le coup d'État militaire du général Abdel Fattah al-Sissi en juillet 2013. François Humfer Kataji.
Il y a tout juste un mois, c'était la branche armée du Hamas, les brigades Ezdin al-Qassam, qui était déclarée organisation terroriste. Cette fois-ci, c'est le Hamas lui-même. Le mouvement palestinien est accusé de soutenir les djihadistes du Sinaï, qui revendiquent régulièrement des attentats contre l'armée égyptienne. Il est donc loin le temps où l'ancien président égyptien Mohamed Morsi était reçu avec les honneurs à Gaza. Aujourd'hui, l'Égypte poursuit son entreprise de destruction minutieuse de tout ce qui touche de près ou de loin aux frères musulmans. Et le Hamas est une émanation de la confrérie. confrérie. La justice égyptienne a également condamné ce samedi à la prison à vie pour la quatrième fois le guide suprême des frères musulmans, Mohamed Badi, pour incitation au meurtre, tandis que plus de 15 000 personnes accusées d'être membres de la confrérie sont toujours derrière les barreaux. Le Hamas a rapidement réagi à la décision égyptienne. C'est une grande honte pour l'Égypte, une escalade dangereuse à l'encontre du peuple palestinien et des forces de la résistance. Le Caire, François Imferkataji, France Inter.
Cela a dû lui faire drôle, il aura appris sa mort de son vivant et peut-être même, qui sait, sur l'une de ses chaînes. Cet après-midi, pendant quelques minutes, plusieurs médias ont annoncé, puis démenti, la mort de Martin Bouygues, le grand timonier de TF1, de Bouygues BTP et de Bouygues Télécom. La rumeur n'aura pas fait long feu, TF1 démentait très vite. En fait, tout serait parti, Véronique Julia, d'un simple quiproquo.
La nouvelle tombe à 14h28 sur le fil de l'AFP. Martin Bouygues serait décédé ce matin à 62 ans dans sa résidence de l'Orne à La Roche-Mabille près d'Alençon. C'est la mairie de la commune voisine de Saint-Denis-sur-Sarthon qui aurait confirmé l'information à nos collègues de l'AFP. Les pompiers du coin confirment aussi être intervenus ce matin pour un décès sans préciser l'identité du défunt. Le maire, lui, va jusqu'à dire qu'il le connaissait bien. La page Wikipédia de Martin Bouygues mentionne aussitôt le jour de son prétendu décès. Quelques minutes plus tard, coup de théâtre, le groupe TF1 dont Martin Bouygues est propriétaire dément formellement l'information. Rappelé par notre confrère Étienne Monin de France Info, le maire de Saint-Denis-sur-Sarthon, Michel Julien, invoque un malentendu qui lui aurait fait confirmer à tort la mort de Martin Bouygues.
Il y a un journaliste qui me dit « Martin Bouygues est décédé chez vous ». Ah oui, monsieur, j'ai un monsieur Martin qui est décédé ce matin, oui. Moi, après le cours, on m'a parlé d'un monsieur Martin, on m'a pas parlé de Martin Bouygues. Et donc, est partie une mauvaise information.
Un peu plus tard, c'est le groupe Bouygues qui dément à son tour. Son PDG Martin Bouygues n'est absolument pas décédé, nous dit un porte-parole qui se dit sous le choc. Martin Bouygues serait, dit-il, en pleine forme. Il a d'ailleurs présenté les résultats de son groupe mercredi dernier. Surtout, il n'a jamais eu de maison à La Roche-Mabille. Sa maison à lui est en Sologne. D'où cette question entière ce soir. Comment une telle rumeur a-t-elle pu se propager? L'AFP a présenté ses excuses. En pleine semaine, une telle rumeur aurait pu avoir des conséquences fâcheuses sur le cours de bourse.
Martin Bouygues, 62 ans, va bien. Merci pour lui. L'éboulement rocheux survenu hier après-midi en Savoie sur la route départementale 117, route qui relie Moutier aux stations de ski des Ménuires et de Val Thorens. L'accès est resté difficile plus longtemps que prévu. Le retour à la normale n'est intervenu qu'il y a une heure, ce qui a considérablement perturbé, vous l'imaginez, le chassé-croisé des vacanciers, Mélanie Viallet.
Oui, mais la galère est loin d'être terminée pour les automobilistes qui montent vers Val Thorens et les Ménuires, car même si la départementale 117 a rouvert, ils ne sont pas prêts d'arriver à bon port. La priorité a d'abord été au bus. Il risque donc d'y avoir de gros bouchons. Pour faciliter la montée en plus de l'accès principal, on peut aussi emprunter la départementale 96. Les deux routes sont donc ouvertes dans le sens montant. Les rochers qui sont tombés sur la RD 117, dont les normes de 50 tonnes, ont été dynamités et la chaussée qui a été très abîmée a été en partie refaite. La descente se fait également sur cette même route et c'est très chargé pour tous les automobilistes qui souhaitent faire une pause. Deux centres d'accueil ont été mis en place à Moutier et à Albertville et selon la préfecture de Savoie, ce soir, tout le monde devrait pouvoir arriver à Val Thorens et aux Ménuires. Mélodie Viallet, France Bleu Pays de Savoie, pour France Inter.
Pardon pour la petite fausse note, Mélodie. À Montpellier, on peut être détenu en prison et perdre des points sur son permis. C'est un peu le principe de la double peine pour ce détenu sanctionné par les excès de vitesse commis par les inspecteurs de l'APJ. Pour faire court, c'est l'histoire d'un petit trafiquant de drogue arrêté l'an dernier à Montpellier. Sa voiture, une Mercedes classe B, est alors saisie avec usage confié au SRPJ. Sauf qu'aujourd'hui, en détention, le petit trafiquant reçoit les PV pour les excès de vitesse commis par la police avec sa voiture. Il a déjà 5 points en moins sur le permis et plus de 700 euros d'amende, Marie Ciabatti.
Le premier PV, il le reçoit la veille de son procès, 19 janvier, pour un excès de vitesse sur la 9. Sa voiture saisie par la PJ un an plus tôt est flashée à 150 km/h. Le procès a lieu, condamné à 4 ans ferme. Il entre en prison, mais la voiture, elle roule toujours. Nouveau PV 2 semaines plus tard et 2 fois encore. Au total, plus de 700 euros d'amende et 5 points qui lui sont retirés. Ne lui en reste qu'un sur son permis probatoire, car ce trafiquant repenti venait tout juste de passer l'examen en début d'année. Ça, plus un contrat de travail comme preuve de sa volonté de se réinsérer. Du beau gâchis pour son avocat Michael Corbier.
Le plus dommageable, c'est que ce garçon passe le permis de conduire, trouve un travail, montre au juge qu'il est capable de tenir l'engagement qu'il vient de prendre. Et puis, on se retrouve 3 mois après avec un permis qui est sur le point d'être supprimé alors qu'il a été difficilement acquis parce qu'il y a 5 points à moins et qu'il n'y en a que 6 sur le dit permis conduire. Donc c'est vrai qu'au début, ça nous a fait presque sourire l'un et l'autre, cette histoire, mais que maintenant, c'est beaucoup plus amer pour lui. Ça va l'obliger, lui, à engager une procédure et à perdre du temps, éventuellement de l'argent, pour que ses droits soient restaurés, tout simplement.
Les amendes devraient être effacées assez vite. En revanche, la procédure s'annonce beaucoup plus longue pour récupérer les 5 points de son permis de conduire. Montpellier, Marie Sievati, France Bleu Hérault pour France Inter.
Le Salon international de l'agriculture, avant-dernière journée, Porte de Versailles à Paris, salon placé sous le signe des nouvelles technologies et de la robotique avec des inventions qui sont en train de révolutionner la vie des agriculteurs, comme par exemple ce robot qui cale ses pas dans les pas de l'exploitant. C'est un peu comme un caddie qui, dans les rayons d'un supermarché, vous suivrait comme un toutou pour stocker vos achats. C'est, disons, le même, mais en plus grand. Alors, puisque le robot suit l'agriculteur, Manuel Ruffez, lui, a décidé de suivre le robot.
À l'origine, le projet est développé pour l'armée, mais très vite, les chercheurs s'aperçoivent que les problématiques peuvent être identiques en agriculture, transporter des charges lourdes sur des terrains chaotiques. Et voilà comment le baudet robe, l'âne robot, voit le jour. Un concentré de technologie fait qu'il vous suit pas à pas, à votre rythme, se jouant des obstacles. Christophe Debin est chercheur à l'IRSTEA, l'Institut de Recherche en Sciences pour l'Agriculture.
Le robot va apprendre mes jambes lorsque je vais presser sur un bouton, la forme, la taille, et dans les premiers mètres, la façon dont je me déplace. Donc j'appuie sur le bouton d'apprentissage, donc je me situe dans un périmètre autour du robot, voilà, et maintenant je peux me déplacer. Donc dans les premiers mètres, c'est encore une phase d'apprentissage. Et puis maintenant, il va être capable de me suivre partout où je vais.
Le robot s'adapte à la trajectoire de l'homme et rend son travail moins fastidieux et plus productif. Christophe Debin.
Il porte votre charge. Donc en fait, vous n'avez plus mal au dos, il n'y a plus de poids à porter et vous pouvez vous concentrer sur la cueillette. Plus simple, plus productif à la fois, parce que pendant que vous ne portez pas les caisses de légumes, eh bien vous pouvez cueillir. Donc en fait, c'est un robot qui va être très vite rentable dans le domaine maraîcher. C'est ce que nous ont dit tous les maraîchers qui sont passés sur le salon.
Les maraîchers, mais aussi les viticulteurs, les arboriculteurs et les forestiers, Baudet-Robe doit être commercialisé début 2016. Au Salon de l'Agriculture, Manuel Ruffez, France Inter.
On passe au sport avec la Ligue 1 de football, 27e journée. Le suspense est relancé en tête de championnat cet après-midi. Le Lyon, le leader, a été battu à Lille 2-1. C'est la première défaite des Lyonnais en championnat depuis le 30 novembre, François Launay.
La belle série lyonnaise est terminée après 11 matchs d'affilée en Ligue 1 sans défaite. L'OL est tombé cet après-midi à Lille. Battu de 2-1 par les nordistes, Lyon enregistre son premier revers en championnat depuis 3 mois. Une mauvaise opération pour l'OL qui pourrait perdre son fauteuil de leader si le PSG s'impose demain soir à Monaco. Pourtant, Lyon a longtemps eu le match en main. Dès la 3e minute, les hommes d'Hubert Fournier ouvrent le score grâce à une reprise de Tolisso sur un corner de Fekir. Un avantage que les Lyonnais vont gérer tranquillement jusqu'à la pause face à des Lillois inoffensifs et sifflés par leur public. Pourtant, au retour des vestiaires, la tendance s'inverse. Le LOSC offre un autre visage et égalise à la 57e minute grâce à Idriss Agaï à la conclusion d'un beau 1-2 avec Ronny Lopez. 3 minutes plus tard, Ronny Lopez se met de nouveau en valeur. Sur un exploit personnel, le Portugais double la mise d'une frappe enroulée à l'entrée de la surface de réparation. Rejoint au score puis dépassé en à peine 3 minutes, Lyon accuse le coup et ne reviendra pas malgré une belle occasion de Jallet en fin de match. Un revers qui pourrait coûter cher dans la course au titre. À Lille, François Launay pour France Inter.
On verra bien ce que fera demain le Paris Saint-Germain. Les Parisiens se déplacent à Monaco et peuvent prendre les commandes. Ce soir, 5 autres matchs débuteront à 20h. Retour maintenant au Stade de France pour le rugby. Il reste une grosse vingtaine de minutes à jouer dans cette deuxième période. France-Galles, bien sûr, Patrick Rivaz. Ça ne s'arrange pas pour les Bleus. 14-6 pour le Pays de Galles.
Et oui, effectivement, c'est le poireau qui resplendit sur la pelouse du Stade de France puisque le premier essai de la rencontre a été marqué à la 52e minute, à la 62e minute, pardon, par l'intermédiaire du demi d'ouverture de cette équipe galloise, Hogard, avec un long coup de pied à la réception. Il y a Hogard et la défense française, en dépit d'un bon retour de Brice Dulin, eh bien, reste impuissante. Voilà donc le premier essai de ce match qui n'a pas été transformé par Alf Penny, qui pour une fois n'a pas été très à droit dans cette transformation. Nous en restons donc à ce résultat de 14-6 et pour l'instant, eh bien, effectivement, les Français, après un très très bon début de deuxième mi-temps où on les avait retrouvés par éclair comme ça, par fulgurance, capables d'enchaîner les actions, capables d'inquiéter la défense galloise, eh bien les Français sont retombés un peu dans les travers qu'on leur connaît maintenant depuis des mois, avec des ballons qui sont gâchés, des ballons qui ne parviennent pas effectivement à être passés dans de bonnes conditions. Et puis surtout, ils sont privés de munitions, ce qui fait qu'effectivement, pour l'instant, l'équipe de France est menée 14-6 face au Pays de Galles.
Merci Patrick Rivage. J'en profite pour vous indiquer qu'un peu plus tôt cet après-midi, l'Italie s'est imposée à Édimbourg en Écosse, 22-19. Restez avec nous sur France Inter. On va voir le temps pour demain. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci à vous, Philippe Habitboul. Tout de suite, les couleurs du temps. Joël Collado de Météo France.
La météo avec Eliade, créateur de Voyages en Grèce et Îles Grecques. Un large choix de formules de vacances au départ de votre région à découvrir sur eliade.fr.
Le vent vient de l'ouest, ce vent océanique qui balayera demain une grande partie de la France accompagnera pour ce 1er mars un temps très doux mais aussi très nuageux. Sur les régions de l'ouest, le bassin parisien, le nord, il pleuvra la nuit prochaine et demain, après les pluies nocturnes, le ciel aura bien du mal à s'éclaircir. Les nuages qui ne laisseront place qu'à des coins de ciel bleu donneront de rares éparses averses. En se dirigeant vers le sud-ouest, le massif central et vers les régions de l'est, le soleil ne percera pas, il pleuvra demain. Ces pluies plus ou moins régulières, plus marquées en tout cas demain matin que demain après-midi, donneront très haut sur les Pyrénées de la neige et sur les Alpes. La limite plus neige remontera progressivement au-dessus de 1800 mètres d'altitude. Et puis autour de la Méditerranée, demain, sur le Roussillon, le Languedoc, la Provence, les pluies qui passeront très vite, tôt demain matin, seront suivies dans la journée d'un temps un peu plus lumineux. Sur la Corse, il y aura un peu de soleil demain matin et un peu, très peu de pluie demain après-midi. Quant aux températures en progression, avec de rares gelées dans l'est demain matin, ces températures, comprises demain après-midi entre 10 et 13 degrés sur la moitié nord, atteindront au sud 13 à 15 degrés.